9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé et bon matin à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bon matin à tous nos auditrices et auditeurs.
Ah bon matin, c'est bien, on va pouvoir dire avec notre invité. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, Karima, vous avez des nouvelles chaussures.
Oh, oui.
Et je ne sais pas, on en parle tout de suite ou on en parle
non,
à la fin?
Non, on en
fin
parle
de...
plus tard.
C'est quoi comme chaussures?
C'est des chaussures japonaises en fait, avec une plateforme et vraiment pour mon dos et pour passer une bonne journée.
D'accord, et vous trouvez ça où?
Ah, c'est une boutique spéciale.
D'accord, japonaise, bien. Voilà. Notre invité, ça fait longtemps qu'on le réclame, s'appelle Loïc Ternisien. Bon matin, Loïc.
Oh, bon matin, puis c'est très québécois, ça me plaît bien.
Mais c'est pour ça, mais on dit bon matin. C'est pour ça que tu disais qu'il était très adapté à notre... puisque vous venez du Québec. Vous êtes naturopathe, spécialiste en aromathérapie et en herboristerie. Vous êtes d'ailleurs en formateur en aromathérapie énergétique, vibratoire et alchimique. On verra tout à l'heure. Vous vous définissez comme un bâtisseur de santé et vous êtes donné pour mission de vulgariser votre métier. C'est ce qu'on fera également ce matin. Vous avez fondé le premier programme de rééquilibrage français remboursé par les mutuelles. Dis donc, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à... Ça a dû être un sacré parcours du combattant, ça.
Même pas, c'est venu à moi.
C'est venu à moi.
C'était une de mes abonnées qui s'occupait de remboursement pour mutuelle, puis qui m'a contacté en me disant votre programme est top, donc j'aimerais pouvoir le faire rentrer dans notre programme de remboursement.
Vous êtes notamment créateur du centre d'herboristerie familiale et vous êtes auteur du guide ultime de l'herboristerie qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Et on verra dans cette émission que l'herboristerie, c'est tout un art. Quand on parle d'herboristerie, de quoi est-ce qu'on parle précisément?
Alors, en France, l'herboristerie, on fait un copier-coller de phytothérapie. Mais la véritable herboristerie, c'est ce métier ancestral qui nécessite en fait la connaissance de la plante, qui va de la reconnaissance à la récolte, au séchage, jusqu'à sa propre transformation. Et quand c'était encore légiféré en France, ça allait jusqu'à la vente et à la recommandation de la plante. Donc c'est un métier qui est très global. C'est pas juste je propose une plante en gélule. C'est tout le savoir de la plante.
Et alors, herboristerie, les herboristes ont longtemps été opposés à ce qu'on appelle les apothicaires. Et finalement, ce sont les apothicaires qui ont gagné.
Oui, alors bon, comme je l'explique dans le guide ultime de l'herboristerie...
Parce qu'il y a l'histoire,
il y a toute une histoire.
C'est super intéressant, finalement, cette histoire-là.
On a tendance à se dire que, voilà, c'est les vilains chimistes qui ont lutté et puis qui ont réussi à faire tomber le métier et le diplôme.
Big Pharma.
Alors qu'en fait, les herboristes ont un peu aussi joué là-dedans. C'est une histoire politique qui a duré pendant des dizaines d'années et qui... C'est conclu par la chute de l'herboristerie.
Mais vous dites que c'est un métier qui a été supprimé en France en 1935.
Oui.
Il y avait un métier.
Il y avait un diplôme.
Ouais. Aujourd'hui, il y a toujours ce diplôme d'herboristerie ou pas?
Non, il a été arrêté par Pétain à cette date-là. Et depuis, en fait, ça a été véritablement la chute du métier complet, puisqu'il n'y avait plus aucun certificat, plus aucune herboristerie et officine qui avait le droit de rester ouverte.
Alors vous dites que c'est vraiment une science, hein, l'herboristerie.
Ah oui, c'est une véritable science. Oui, on a besoin de savoir connaître les principes actifs qu'il y a dans les plantes. Déjà, savoir la botanique pour les reconnaître, savoir les récolter, savoir comment est-ce qu'on sèche pour préserver ces principes actifs que l'on connaît aussi, et savoir quel est le meilleur moyen d'extraction des principes actifs, que ce soit l'infusion, que ce soit la décoction, que ce soit la teinture mère, la vinaigrée. Et il y en a tout un tas. Et d'ailleurs, des remèdes ancestraux comme le ginépi dans les Alpes, c'est une macération de plantes dans l'alcool qui permet d'en extraire les principes actifs. À la base, c'était ça.
Le ginépi avec modération.
Oui, de toute manière, les macérations dans l'alcool, c'est avec modération, c'est juste pour se soigner.
Il faut savoir pour tous ceux, parce qu'il y a pas mal de macérations dans votre livre, qui ne prennent pas d'alcool, il y a des alternatives.
Bien entendu, il y a des macérations dans le vinaigre, des macérations dans la glycérine, il y a des macérations dans l'eau aussi, les infusions à chaud ou à froid. On n'est pas obligé d'utiliser les macérations dans l'alcool.
Est-ce que la science peut tout expliquer? Est-ce que, par exemple, la science peut expliquer pourquoi ça fonctionne, peut expliquer les principes actifs des plantes? Vous prenez un exemple, le saule, par exemple.
Oui, la science, si elle y met les moyens et l'énergie pour en faire des études, elle est en mesure de tout prouver. Mais prouver certains principes actifs ou l'efficacité de certaines plantes ne sert à rien parce que ça ne rapporte pas d'argent. Le saule pleureur, c'est un bon exemple. Si on n'avait jamais utilisé le saule et qu'on n'avait jamais essayé de comprendre pourquoi ça fonctionne, l'aspirine, on n'en utiliserait pas aujourd'hui.
Vous avez voulu comprendre. Dans votre démarche, il y a ça. Essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez compris de ça ?
Bah, que les anciens savaient beaucoup de choses que nous avons occultées. Déjà, parce que quand on réfléchit, alors évidemment toutes les plantes ne sont pas étudiées, mais on a cette connaissance empirique, on a ces savoirs, on sait qu'il y a des choses qui marchent mais qui ne sont pas nécessairement prouvées par la science. Par contre...
Comme quoi par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand on va voir pignon sur rue en France, il faut que ce soit prouvé scientifiquement.
Là, comme ça, si on regarde, par exemple, la calendule, mais moi, je crois que même la calendule a été étudiée pour tout ce qui est cicatrisation au niveau de la peau. Il y a tellement de plantes que là, évidemment, je vais pas trouver un exemple.
D'accord, si ça vous vient, on a toutes les missions où vous pourrez intervenir.
Mais l'intérêt, en fait, pour moi, ça a vraiment décidé de se dire, ok, on sait que telle plante fonctionne, elle fonctionne pour ça, de manière empirique, que dit la science ? Et on se rend compte que, dans une grande partie des cas, la science corrobore avec une molécule que l'on trouve à l'intérieur de la plante. Et c'est ça qui va être intéressant parce que ben on est en mesure de comprendre et se dire bon OK, cette plante là, il y a telle molécule mais on va l'utiliser de telle manière parce que la science le dit et souvent elle a extrait cette molécule. Et d'ailleurs, on a juste à regarder il y a des arbres dont certaines molécules sont extraites et sont utilisées en chimiothérapie. On va plus l'utiliser de manière singulière, une seule molécule. Sauf que la nature, c'est pas une seule molécule. C'est des centaines de molécules incluses dans une plante qui travaillent en synergie. Et c'est ça qui est, en mon sens, beaucoup plus intéressant. Parce que ça peut minimiser les effets secondaires, minimiser les risques, et apporter une richesse médicinale bien plus intéressante.
Et en plus de voir, en fait, la plante, en fait, comment est-ce qu'elle est, cette pluridiscipline, en fait, que contient la plante, je vais le dire comme ça, et qu'elle a, en fait, des effets sur des choses, en fait, pour l'avoir testée, puis même pour vous écouter, Loïc, de voir une certaine plante, par exemple, on va l'utiliser pour quelque chose de spécifique, de précis, et puis de voir que finalement, elle a aussi un impact et un effet sur autre chose. Sur par exemple quelque chose dont on se plaignait pas, par exemple une douleur, et de voir plusieurs fois, moi je l'ai testé, par exemple moi je redécouvre en ce moment l'épice, bah il y a deux épices en fait en ce moment que je redécouvre, la cannelle parce que je cuisine beaucoup avec et parce que j'ai découvert grâce à vous que c'était aussi ma mère me le disait mais je la croyais pas. Parce que ma mère n'avait pas la base scientifique.
Mais oui, mais il faut toujours écouter voilà, les anciens.
Mais c'est clair.
Oui, mais votre mère la tenait peut-être, sa mère.
C'est clair. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, maman, j'ai découvert que la cannelle, pourquoi est-ce que tu utilisais la cannelle? Tu la mettais dans la cuisine. Comment tu l'utilisais pour calmer certaines douleurs? Quand on la mettait dans de l'eau chaude, de la boire comme ça. Prends un peu de cannelle. Elle disait en arabe, sofé. C'est-à-dire, tu vas la prendre dans une cuillère et tu vas la faire passer avec de l'eau et de voir l'impact que ça a sur mes intestins et sur... Et puis aussi cette ouverture du cœur. Vraiment, cette ouverture du cœur. Bah, parce que, bon, moi, je m'intéresse à vous, Loïc, parce que vous avez aussi cette approche, en tout bien tout honneur, bien sûr.
Oui, c'est ce que
parce que vous avez cette approche aussi spirituelle, vibratoire, et aussi du monde de l'intangible. Quand j'ai du monde de l'intangible, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas, et qu'on ne perçoit pas, et que malheureusement, la science a les moyens, aurait les moyens, comme vous l'avez dit, de pouvoir prouver telle ou telle chose, mais ne le fait pas, parce que, comme vous l'avez dit, soit ça rapporte pas d'argent, soit ça... Donc, la cannelle et le curcuma. Et le curcuma, alors là maintenant je le teste.
C'est pas survendu le curcuma? Je voudrais pas dire, mais est-ce que le curcuma, ça fait pas partie justement de ces plantes auxquelles on prête toutes les vertus du monde?
En fait, le curcuma, ce qui va être intéressant dans le curcuma, c'est la curcumine. Or, la curcumine n'est pas nécessairement bien extraite du curcuma quand on le mange. C'est pour ça, il va falloir ajouter d'autres plantes, comme le poivre noir le gingembre, qui vont faciliter l'extraction, mais surtout du gras. S'il n'y a pas de gras, ça sert à rien.
On l'assimile pas, c'est ça que vous voulez dire.
On va pas l'extraire, donc pas l'assimiler. Ça fait partie de ces plantes où c'est peut-être plus intéressant, justement, de prendre directement la molécule qui va être extraite, qui là sera anti-inflammatoire.
D'accord. Et juste pour dire, par rapport au curcuma, j'ai une expérience. Alors après, prouvée scientifiquement ou pas, en tout cas, moi, je l'ai vu avec mes yeux. Et moi, ça me suffit en tant que thérapeute de terrain. Je vais dire ça comme ça. De l'avoir. Mais vraiment, je vous assure.
Validé par mes yeux.
Validé. Bah oui, par mes yeux et par le retour aussi des personnes que j'ai utilisé le curcuma, donc le kharkoum en arabe, en mission humanitaire au Maroc, dans le Moyen Atlas, et où je n'avais plus d'huile essentielle de Gaultéry couchée et pour faire des massages, et je mélangeais à l'hélicryse italienne, Je n'en avais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? La dame, elle a un genou. Donc, vous savez, en plus au Maroc, les escaliers montent, descendent, ne sont pas forcément bien faits. Et la dame venait se plaigner de douleur au genou. Donc, je n'ai pas fait de scanner, je n'ai pas fait d'IRM, j'ai pas fait. Simplement, j'ai écouté ce qu'elle avait. Et bien sûr, le côté aussi psycho-émotionnel, parce que c'est mon travail. Et simplement, de prendre le curcuma, le mélanger à de l'huile, que j'avais mélangé avec de l'huile d'olive, parce que là-bas on était au pays de l'huile d'olive aussi, donc c'était au Maroc, hein, au Moyen Atlas à Mid-Delta, et de masser le genou et de voir, dire, elle me disait mais je sens déjà qu'il se... elle me dit mais t'as fait quoi? Mais en fait elle me dit moi ça j'utilise pour faire ma cuisine ça. Je dis ben puisque tu en as dans ta cuisine, tu vas faire des massages comme ça à chaque fois pour te soulager, pour te faire du bien.
Exactement. Vous ça peut même être en pâte un petit peu plus épaisse, comme je l'explique dans le guide ultime de l'herboristerie, on peut facilement mettre le curcuma épais sur une gaze avec un tout petit peu d'huile, légèrement de gingembre et en faire des cataplasmes. Et garder ça un petit peu plus longtemps voilà. Qu'un simple massage.
Parce que vous avez effectivement un chapitre qui est consacré aux cataplasmes qui font partie des l'arsenal thérapeutique de l'herboriste.
Mais ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout est déjà là, tout est autour de nous et tout est, moi j'appelle ça, enfin c'est pas moi qui l'appelle, j'ai trouvé un titre de livre qui s'appelle À la pharmacie de Dieu, peut-être que vous le connaissez, et de voir que toutes ces plantes qui sont mises à notre disposition dans notre environnement, la nature, ce qu'elle a mis à notre disposition, de pouvoir utiliser tout ça et de pouvoir vraiment aller se servir et faire nos remèdes et faire
Et par rapport à ces plantes justement qui peuvent être couteau suisse, on a l'ortie. L'ortie, elle a tellement de bienfaits, tellement de propriétés qu'on sait même pas où la ranger. Tellement elle a une action globale au niveau du
corps. Par exemple,
alors déjà c'est la plante des femmes. Toutes les femmes qui font de l'anémie devraient prendre des infusions d'ortie parce qu'elle est très riche en fer. C'est aussi une très grande minéralisante. Donc si on est fatigué, qu'on manque de vitalité, eh bien on va pouvoir la prendre pour ça. Elle va aussi être antihistaminique. C'est la saison justement en ce moment, cure d'ortie sur un mois et demi, très intéressant pour rééquilibrer l'immunité. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle est détox aussi, enfin elle est vraiment couteau suisse. C'est vraiment ces plantes qu'on pourrait prendre quasiment toute l'année, tous les jours, elle est bourrée de bienfaits.
Prenez de l'ortie vous
J'en ai dans mon jardin, mon mari n'arrête pas de me le dire, parce que mais même mon mari m'a parlé que sa mère lui avait dit, donc on revient encore
voilà,
grands-parents, au niveau articulatoire aussi.
Aussi, voilà. Bah oui, c'est riche en silice.
Voilà. Ben voilà, et donc comme j'ai des petits soucis, c'est pour ça que je porte mes chaussures japonaises, Philippe. Voilà, mes douleurs.
Et bientôt, elle va nous dire j'ai une jambe en bois en fait. C'est ça. Et une hanche en titane.
Non, j'ai juste subi des opérations sur une cheville. Et donc voilà, et avec le temps et tout ça, les petits rhumatismes. Donc il me dit l'ortie, il en a planté dans le jardin.
C'est votre mari.
Mon mari. Il m'a dit, quand est-ce que tu vas le prendre? Oui, je vais le faire. Là, je vais lui dire, c'est Loïc qui me l'a dit.
Bien. Alors, si c'est Loïc qui l'a dit, c'est parfait. Loïc va nous le dire jusqu'à 10h et on feuillette ce matin votre guide, Loïc Ternisien, le guide ultime de l'herboristerie chez Albin Michel.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec Karima Chadibaou qui est avec nous et nous avons invité Loïc Ternisien qui est naturopathe. Vous êtes formé sur le tard à la naturopathie, hein, plus de 10 ans que vous la pratiquez aujourd'hui, mais c'était pour répondre à une demande personnelle déjà, pour vous soigner vous-même.
Exactement, moi j'ai quand je me suis installé au Québec, j'ai développé un syndrome inflammatoire chronique des intestins qui maintenant est un trouble assez commun, parce que quasiment, enfin j'entends beaucoup de personnes qui l'ont.
C'est la Mickey, là, ça fait une des Mickey, non?
Non, c'était un côlon irritable.
D'accord. Ouais.
Et en fait, j'ai fait toute la batterie d'examens normaux en médecine traditionnelle, enfin en médecine moderne. Et bah la conclusion a été, faut vivre avec. Et je me suis dit, mais non, faut pas vivre avec. Mon corps était parfait, donc il y a pas de raison qu'il ne continue pas comme ça. Et je suis rentré dans une école pour juste voir. Et je suis sorti une heure après en ayant signé le diplôme d'herboriste aromathérapeute naturopathe et en partant pour 5 ans.
D'accord. Mais vous avez fait beaucoup beaucoup d'études hein, derrière. Il faut expliquer que c'est un parcours de 10 ans. Hein,
Oui. Il y a le diplôme de base, et je peux dire diplôme parce qu'au Québec, là-bas, il y en a. Et après, c'est que de l'étude. On a fait que ça.
On alerte assez souvent, mais c'est vrai que naturopathie et tout ce qui concerne la médecine naturelle a le vent en poupe aujourd'hui. Il y a beaucoup de formations plus ou moins sérieuses qui arrivent, et j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger aujourd'hui. Donc, on dit toujours, faites très attention.
Je suis pas celui qui contredira les propos.
Non, non, mais c'est vrai. Nous, on est vigilants,
Karim. On dit tout le temps,
hein. dit tout le temps là-dessus qu'il faut.
C'est pas parce qu'on a fait un module, trois jours, six jours, un mois ou deux mois, trois mois, allez, deux, en plus des trucs en ligne ou quoi que ce soit, qu'on est naturopathe.
Exactement. Il faut faire très attention, ouais, malheureusement.
Ouais. Voilà. Vous publiez le guide ultime de l'herboristerie aux éditions Albin Michel. Alors, il y a énormément d'indications pour faire ces médicaments soi-même. Là aussi, prudence, hein, voilà, ça s'apprend, ce sont des indications, mais
oui,
c'est
des
pareil.
Remèdes,
voilà.
Remèdes.
Et le guide, en fait, il a été conçu pour tout le monde. Moi, j'ai été un peu tanné, comme on dirait au Québec, ou un peu fatigué d'avoir un des guides, et finalement, on fait comment pour les enfants? Est-ce qu'on peut pour les femmes enceintes? Est-ce qu'on peut pour... Donc, je l'ai vraiment conçu pour toute la famille, et de manière à ce que tout le monde soit autonome. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de plantes, mais il y a toutes les détails, toutes les monographies, toutes les contre-indications, tous les effets secondaires pour chacune des plantes. Et il y a aussi, eh bien, tous les modes de calcul pour les enfants et, au besoin, les femmes enceintes ou autres. Ce qui fait que chaque personne...
Parce que en herboristerie, il y a quand même énormément de choses déconseillées pour les femmes enceintes, hein.
Oui, il y en a beaucoup. Alors, soit c'est parce que c'est étudié, soit c'est parce que c'est du principe de précaution. Et donc, par principe de précaution, comme on ne sait pas, on préfère éviter que certaines plantes soient prises par les femmes enceintes pour éviter les problèmes au niveau du développement.
Est-ce que toutes les plantes qui sont dans la nature sont médicinales ou est-ce qu'il y a des conditions particulières pour qu'une plante soit décrétée comme médicinale?
Alors, toute médicinale, mon avis perso, oui, dans une moindre mesure. Médicinale peut-être juste parce qu'elles sont comestibles. Médicinale parce qu'elles vont contenir des principes actifs, mais il va falloir savoir les utiliser. On le sait, hein, que les anciens pouvaient utiliser des plantes qu'on considère maintenant comme étant toxiques, mais qui allaient les utiliser avec une dose quasiment homéopathique, parce qu'on sait que c'est la dose qui fait le poison. Donc, pour moi, toutes les plantes ont des propriétés. Maintenant, ce qui va faire qu'une plante est médicinale, c'est celle, déjà, le savoir ancestral, le fait que ça a été quasiment tout le temps utilisé. Et parce qu'on connaît, la deuxième chose, c'est la gamme de principes actifs qui nous permet de cibler un petit peu plus et d'expliquer les bienfaits.
Et est-ce que vous avez réussi à répondre, Loïc, à cette question? À quel moment une plante médicinale devient un médicament?
Ah, c'est une bonne question. Alors, si je me réfère à ce que disaient les herboristes avant que le métier soit interdit, ce n'est pas possible puisque le médicament est considéré comme étant quelque chose de chimique et la plante reste une plante, donc un remède. Ça va être la concentration finalement. Quand on extrait une molécule de la plante et qu'on a quelque chose qui est vraiment ultra ultra concentré, là on peut lui donner l'étiquette de médicament. C'est ce qui est fait d'ailleurs par nos médicaments traditionnels. Après, je préfère rester dans le côté médicinal.
Vous expliquez dans votre livre que beaucoup d'applications qui sont soi-disant modernes ne le sont pas, que les anciens le savaient. Mais il y a bien quelqu'un qui a expérimenté. Il y a bien...
Il y a moi.
Non, mais avant, je veux dire, avant les anciens, il y a bien quelqu'un qui a dit, bah tiens, ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça.
Alors, ce qui explique ça, c'est la manière empirique avec laquelle l'animal, et nous sommes des animaux, faut pas l'oublier, avec un cerveau peut-être un peu différent, mais avec laquelle l'animal a toujours fait de l'automédication. Et on en a des traces encore maintenant, les chimpanzés, les tigres, il y a plein de preuves que les animaux savent quelles sont les plantes qui vont leur faire du bien.
Et c'est quelque chose intuitif,
c'est intuitif. Ouais. Et ça se transmet de génération en génération. Bah, c'est assez simple, hein. Si un animal mangeait une plante qui lui faisait du mal ou qui le tuait, les autres étaient au courant, hein. Donc ils allaient pas la manger. Et en fait, de génération en génération, de manière intuitive, eh bien, il y a ce savoir empirique d'automédication par les plantes et même par l'argile, donc la géophagie, qui s'est transmis d'espèce en espèce. Ensuite, eh bien, nous avons voulu l'expliquer, le transformer et en faire un usage un petit peu plus professionnel par rapport à notre espèce. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel.
Dans votre livre, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de monographies.
Oui.
Ce sont les cartes d'identité des plantes. Oui. Et dans ces monographies, on voit que une plante, ça a beaucoup de vertus. Oui. Comment est-ce qu'on choisit la vertu d'une plante, la principale vertu?
La principale, ça va être...
Parce qu'une plante, ça a combien? Ça peut avoir 10 vertus, finalement.
Ça peut avoir plein de vertus, mais il y en a toujours qui sont supérieures à d'autres. Ça va dépendre de la richesse en principes actifs. Donc, en molécules qu'il va y avoir à l'intérieur. Si on prend l'exemple, justement, de l'ail qu'on va avoir sous les yeux, l'ail, on sait que c'est une antivirale. C'est une antivirale, c'est une antibactérienne à large spectre. Elle est très intéressante pour ça et elle est aussi très intéressante pour le système cardiovasculaire. C'est un petit peu les deux sphères sur lesquelles elle va le plus travailler. Mais il n'y a pas que ça. Si on regarde à la fin, on va avoir un petit effet sur le foie, on va avoir un petit effet hépatoprotecteur. On a des propriétés qui sont moins importantes, mais tout aussi intéressantes.
Mais ça veut dire que chaque plante, en gros, a une indication principale, c'est ça ?
Pas toutes. Il y en a qui, comme l'ortie, comme je le disais tout à l'heure, qui sont tellement larges qu'on peut pas donner une indication principale. Mais en règle générale, on a 2-3 indications principales pour les plantes.
Alors, vous nous expliquez qu'on peut cultiver, comme le mari de Karima, sa propre pharmacie maintenant.
Hein. Ah oui, on peut le faire tout. Hein, on peut le faire dans son jardin, sur un balcon.
Voilà. on peut fabriquer sa propre pharmacie et on peut tout fabriquer.
On peut tout fabriquer et en plus...
Même les suppos, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui, même les...
Alors, pour les amateurs, alors j'ai appris ce que ça voulait dire, suppositoire. Hein.
Ouais. Les suppos, ce qui va être intéressant, c'est... Enfin, j'hésitais à les mettre dans le livre parce que ça demande quand même beaucoup de calculs mathématiques. Donc tout a vraiment été bien détaillé. Mais ce qui m'a poussé à le mettre, c'est parce que c'est des formes galéniques, donc des formes d'usage des plantes, qui sont de moins en moins fabriquées dans nos propres pharmacies. C'est-à-dire que faire un suppositoire avec telle ou telle plante, c'est moins commun. Alors que c'est tellement simple à faire. Il faut avoir son matériel, il faut avoir les moules à suppositoire, il faut avoir les huiles végétales nécessaires, il faut savoir faire les calculs. Mais en dehors de ça, on peut très bien les faire soi-même, les conserver au congèle pour quand on en a besoin.
C'est très français, hein, les suppos, vous dites.
Ah, c'est très français, oui. Je peux vous dire qu'au Québec, quand on parlait de suppositoire, pour là-bas, c'est un viol ou un traumatisme. C'est surtout pas de suppositoire.
Ça me rappelle une petite anecdote, si vous me permettez.
Sur les suppositoires.
Sur les suppositoires, oui. Je vais vous dire avec.
Merci de partager ça avec nous, carrément.
Mais c'est pour mes enfants quand j'étais donc jeune maman avec et pour moi, j'étais dans le présupposé que les suppositoires étaient très efficaces contre la fièvre pour les enfants parce que c'était la difficulté donc avec la pipette de lui donner son antalgique pour faire descendre la fièvre et tout ça. Et donc je vais chez le médecin, chez le pédiatre et ce jour-là, il est remplacé par sa collègue pédiatre asiatique. Et je lui dis, vous pouvez prescrire des suppositoires ? Elle me dit, oh, comment ça, Madame Baou, mais ça va pas, vous allez traumatiser votre enfant. Elle me dit, mais ça, c'est bien français, hein. Mais pourtant, vous n'êtes pas d'origine française. Comme ça. Je dis, d'origine maghrébine. Elle me dit, on ne fait pas ça là-bas chez vous. Moi, je suis pour l'efficacité. Je veux que la fièvre tombe. J'ai peur de la fièvre. Et j'avais peur que ma fille convulse. Et elle me dit, non, vous allez voir, vous faites ça et tout ça. Puis elle m'explique un truc en... de la médecine traditionnelle chinoise pour faire tomber la fièvre, de piquer un endroit spécifique au niveau du pouce. Et elle me dit, non, pas de suppositoire. Et depuis ce jour-là, j'ai cessé les suppositoires. Elle m'a dit, vous rendez pas compte. C'est vrai que c'est efficace, mais quand même, vous rendez pas... Pourquoi est-ce qu'on va le faire rentrer par là-bas? Mais vraiment, et puis je la regardais et elle disait, nous les... Par là-bas.
Là où ça va
le rectum,
être, quoi. Là où ça va être très intéressant, c'est pour tous les troubles pulmonaires. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Dès qu'on a un problème au niveau des poumons, il faut savoir que quand on prend un composé par la bouche, il va falloir qu'il y ait cette dégradation au niveau du système digestif, ça passe dans le sang, c'est dégradé dans le foie, et ensuite, ça va sur le siège des poumons pour avoir une action. Eh bien, quand on passe par l'autre côté, par là-bas, il y a un chemin direct sanguin qui va passer du rectum au poumon, et donc apporter la quantité maximale de principe actif.
Je vais relire
mes manuels.
Réévaluer mon...
Parce que je pense que vos enfants, ils vous écouteront peut-être plus, Karima, là. Ils sont, bon, en tout cas, bon, si vous êtes adepte, dans le livre de Loïc Carnizien, vous pouvez fabriquer vos propres suppositoires, mais c'est vrai que longtemps les suppositoires ont eu cette réputation d'être plus efficaces en fait. C'est vrai qu'on finalement les pensées et les présupposés évoluent.
En fait, c'est parce que la quantité de principe actif qui va rentrer dans le sang va être maximale tout de suite. Et c'est pour ça que c'est en tout cas pour ce qui va être pulmonaire, c'est beaucoup plus intéressant.
Combien de temps les plantes conservent-elles leurs propriétés médicinales? Parce qu'on a toujours l'impression qu'une fois que c'est dans le bocal, c'est à vie.
Non, c'est pas à vie, parce que ça va se dégrader avec la lumière. Déjà, faut bien les conserver. Donc, généralement, c'est au sec et à l'ombre. Ouais. Ou dans un pot en verre teinté. En général, on parle d'à peu près 12 mois pour tout ce qui va être léger, donc les fleurs, les feuilles. Et on peut aller jusqu'à 2 ans pour les racines.
Donc, pareil, il y a une date de limite de consommation pour après, vos plantes.
Oui, après, ça ne veut pas dire que si on dépasse, il n'y aura pas encore de principe actif. Mais c'est moins intéressant.
Bien, Loïc Carnizien est avec nous aujourd'hui et on feuillette votre ordonnance, j'allais dire.
C'est presque ça.
Voilà, le guide ultime hein, de l'herboristerie aux éditions Albin Michel.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est le guide à avoir chez vous, toute saison d'ailleurs. On est en pleine période d'allergie aussi, donc oui. C'est le moment. Le guide ultime de l'herboristerie de notre invité Loïc Ternisien. Alors figurez-vous que ça fait un moment qu'on voudrait vous avoir avec Karima Chadibaou pour oui. parler de l'utilisation des huiles essentielles spirituelles.
Oui.
Et on apprend que finalement, avant de les utiliser en santé, il y avait un usage spirituel des huiles essentielles.
Oui, il y avait un usage sacré. Il y a 7 huiles essentielles qui sont répertoriées pour être classifiées comme étant les huiles essentielles sacrées.
Alors c'est vraiment 7, c'est un cadre, c'est,
ouais. Parce qu'en fait, pourquoi 7? Parce que celles-là, on les retrouve dans les écrits anciens, dans les écrits sacrés. Mmh. Donc que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit les écrits d'autres religions, on va retrouver l'usage de ces huiles essentielles.
Mmh. Alors, quelles sont ces 7 huiles essentielles pour ceux qui nous écoutent?
Alors, j'en oublie toujours, mais je sais qu'il y a la cannelle, il y a
le
Cedrus atlantica, il y a ma préférée, le nard de l'Himalaya, oui. Il va y avoir la myrrhe, il va y avoir la
galbanum,
la cannelle, effectivement,
et l'encens au Liban. Il m'en manque toujours une, le santal.
Le galbanum, c'est quoi?
Ah oui, le galbanum. Oula, celle-là, elle est très intense au niveau de son odeur. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il paraît qu'elle était tellement puissante que les anciens disaient qu'elle était capable de faire fuir les serpents et le diable lui-même. Mmh. Tellement son odeur est dégueu.
Alors, on dit que la reine de Saba a imploré l'aide du roi Salomon pour protéger ses cultures d'encens.
Oui.
Justement, pour tous ceux que ça...
Celle qui va être intéressante aussi pour, c'est le nard de l'Himalaya. Alors, c'est sûr que c'est ma préférée, donc je suis pas très neutre avec cette huile.
Mais elle est super rare en plus, là.
En ce moment d'ailleurs, on ne peut plus l'acheter parce qu'en fait, les plantes médicinales. Il faut savoir que quand on les récolte trop, eh bien, il y a un problème environnemental et c'est le cas du nard de l'Himalaya. Donc, en ce moment, vous ne trouverez pas de nard de l'Himalaya. Elle a beau être excellente, eh bien, ils sont en train de protéger la plante pour éviter qu'elle soit complètement perdue.
En général, dans une émission, on dit qu'il y a quelque chose, il y en a plus, ils sont tout le monde se rue pour savoir où on peut en trouver.
Bah là, on peut pas en trouver, je peux vous garantir. J'ai cherché, en tout cas, en France, on ne trouve pas de nard de l'Himalaya. Faut la faire importer dans les stocks qui restent à l'étranger. Mais la récolte et la transformation de cette plante est interdite pour le moment, tant que les réserves ne sont pas remises à niveau.
Qu'est-ce qui fait qu'une huile essentielle est sacrée?
Ce fameux répertoire. Ces fameux écrits anciens dans lesquels on va les trouver et leurs propriétés. Si je prends le cas du nard de l'Himalaya, elle permet de nous rentrer dans nos profondes. Déjà, elle a une odeur qui est bipolaire. Elle a comme deux effets qui se coulent pour les anciens qui écoutent et qui ont la référence. Elle a
La référence, c'est pour qui se coule. Hein.
C'est ça.
C'est pas pour le nard de l'Himalaya.
Non. elle nous permet vraiment de rentrer dans nos profondeurs, de rentrer dans nos noirceurs, dans nos ombres. Et en même temps, elle a ce côté très... très très éthéré, très léger, et c'est une huile très puissante sur laquelle travailler sur le plan vibratoire, et on peut juste la respirer, on peut méditer avec, mais faut être prêt pour travailler avec celle-ci.
Oui, parce qu'elle va nous bousculer en fait, et bouleverser, et pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, donc ouvrir en fait les blessures pour pouvoir justement les travailler.
Elle est ce fil du rasoir entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort. Elle est vraiment ce fil, cette transition. Et c'est jamais très confortable d'être entre deux.
Comment on les utilise d'ailleurs justement? Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Alors il y a
l'usage
le plus traditionnel, c'est de respirer l'huile essentielle. Donc on peut l'utiliser en méditation. Alors dans le programme d'aromathérapie énergétique que je fais. Donc,
parce que vous avez une formation.
Hein. Ouais, j'ai cette formation là. On a plusieurs usages. Donc soit avec du taping, donc utiliser un tout petit peu d'huile essentielle sur ses doigts et taper sur des points particuliers. De médecine traditionnelle chinoise, on peut la respirer, on peut méditer avec, on peut aussi tout simplement porter la fiole sur soi. Je vais pas rentrer dans toutes les explications quantiques de pourquoi ça fonctionne.
Allez-y.
C'est parce qu'en fait, si tout est fréquentiel, il y a une information dans l'huile essentielle qui passe de l'huile à nous, au travers du verre, parce que c'est une histoire de fréquence, c'est une histoire de vibration. Je sens que ça intéresse.
Ah, j'adore. Moi, je suis en kiffance, comme disent les jeunes. Je suis en transe.
La cannelle aussi est très intéressante parce que sur le côté huile essentielle sacrée, on la retrouve aussi dans ces écrits-là et elle va avoir quelque chose de très feu, de très solaire. On va l'utiliser pour les personnes qui sont vraiment en phase d'épuisement ou en phase de dépression, en phase de déprime, qui ont besoin vraiment de rallumer cette énergie très profonde au niveau... c'est un peu la gifle, la cannelle.
Ouais.
C'est la gifle. Elle apporte des informations, c'est un chemin sans retour. C'est une bonne claque au visage. Faut là aussi être prêt à accueillir ce que cette huile va nous apporter.
Ouais. Et surtout pour le dire à nos auditeurs et auditrices, que vraiment, si on souhaite vraiment faire un travail avec soi-même, avec les huiles, justement, d'être aussi accompagné, parce que c'est important, parce que ça peut venir réveiller des choses. Et je me souviens, donc j'utilise aussi des huiles essentielles, notamment donc en mission humanitaire, avec des enfants, des personnes, hein, notamment. On était monté à 1400 mètres d'altitude et on a rencontré des gens. Donc là-bas, il y a la culture du cèdre de l'Atlas.
Ah, c'est vrai.
Et donc, de revenir aux origines, de revenir. Il y en avait des gens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Donc ça se voyait à leurs pupilles dilatées, ça se voyait même au témoignage de ce qu'ils nous disaient. Et en même temps, on n'avait pas de moyens, en fait, de rassurer ou d'apporter. Et donc, on avait décidé avec le staff, avec il y avait des naturopathes, des médecins et des psychothérapeutes, de travailler uniquement avec le cèdre de l'Atlas pour les aider, en fait, à... c'est un arbre, hein, le cèdre, exactement. Pour l'enracinement...
Loïc, le geste que vous voulez faire, ça passe mal à la radio, donc voilà. Expliquez-nous.
Ouais. En fait, le cèdre, quand on regarde les huiles essentielles sacrées, c'est important de regarder la plante, à quoi elle ressemble. Ouais. Le cèdre, il est droit. Il est ancré, il est incorruptible. Il peut y avoir du vent, le cèdre restera droit. Et donc, quand on a justement besoin de s'ancrer, de s'aligner, de vraiment revenir à soi, le Cedrus atlantica en huile essentielle est formidable sur le plan sacré. Parce que vraiment, elle nous amène, elle est aussi très intéressante pour les gens qui ne savent pas dire non.
Donc, ouais. Cedrus atlantica.
Cedrus atlantica, oui, en latin.
Oui. Et dans l'affirmation de soi, justement, le fait de dire non, d'apprendre à dire non, les gens qui disent oui tout le temps, et ça aide parce que, pour l'avoir testé aussi sur moi, hein, c'est vraiment des fois où je sens que je suis dispersée, que je suis en train de disperser, quoi. Vraiment le mot. C'est vraiment une huile qui rassemble et qui te ramène, voilà, reviens dans ton axe.
Exactement.
Reviens dans ton axe.
Ouais.
Et ça, c'est juste... Mais vraiment pour le vivre, quoi. Vous le sentez dans vos cellules, dans votre... C'est comme si j'étais à un mur comme ça, éparpillé avec... Et puis, il y a un alignement qui se crée et qui se fait et qui, justement, nous amène à nous dépasser et à faire ce qu'on a à faire. Ou si on est dans une situation exigeante qui nous demande de mobiliser ou de...
On se transforme en Hulk.
Voilà, ouais.
Avec une grande puissance.
Mais ne me dites pas que vous aimez aussi les Marvel.
Là, c'est juste un exemple que j'ai pris pour le personnage, mais je les connais pas tous.
Voilà, d'accord.
C'est quoi un Marvel?
Ah, les super-héros.
Non, je vous taquine.
je sais que vous les connaissez.
Il existe de l'huile essentielle du cèdre de l'Atlas ou pas?
Comment ça, il existe?
Oui.
L'huile? Ben oui.
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 Mais du cèdre de l'Atlas,
Oui, bien sûr que oui.
C'est
oui,
le Cedrus Atlantica.
C'est le Cedrus Atlantica. Ah, c'est celui-là.
Oui, d'accord. Celui-là. Et c'est pour ça que c'est.
Faut
aussi...
m'expliquer longtemps.
Je suis nouveau. Pas la question,
non, mais excusez-moi, carrément, je vous ferai des fiches avant.
C'est aussi un arbre qu'on va trouver sur un drapeau, par exemple. C'est un arbre qui est très utilisé pour sa notion sacrée depuis très longtemps.
Exactement.
D'autres huiles essentielles que vous utilisez justement.
La myrrhe, personnellement,
je l'utilise pas beaucoup. Je forme donc à l'Institut d'aromathérapie énergétique à son usage. C'est une que j'utilise le moins. J'aime beaucoup le santal parce qu'elle a quelque chose de très sensuel dans son travail. Elle va beaucoup travailler au niveau du chakra sacré. Je dirais pas des troubles à ce niveau-là, mais quand on manque de créativité, tout ce qui va être créativité au sens large, parce que le chakra sacré va travailler sur la création de la vie, mais aussi la création au sens là de sa vie.
Oui.
Donc quand on a des déséquilibres à ce niveau-là, elle apporte de la sensualité, elle est vraiment connectée à l'union sacrée.
Oui.
Ce travail dans l'équilibre masculin-féminin,
voilà.
Ce travail dans le...
Qu'est-ce que vous voulez dire, quand même? Parce que vous trépignez.
Je vois
que ça sautille
choses...
à côté de moi.
J'ai le cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer, Loïc, le cœur en expansion.
Je le sens, je le sens.
Oh, vous avez fait sa semaine, là. Ouais. Ah, je suis tranquille, là. Mon mois de mai est fini bien.
Voilà. Il y a vraiment cette union, justement, entre les différents principes, en fait, les polarités, le ciel et la terre, le féminin et le masculin. Et ça crée vraiment cette union et cette communication entre le haut et le bas.
Et surtout que quand on est dans le côté procréation ou sexualité, faut jamais oublier que il y a quelque chose de sacré. Et nous sommes déconnectés ça dans nos sociétés, où c'est devenu limite quelque chose d'animal, quelque chose d'anodin. Bien, le santal va permettre de reconnecter avec justement cet acte qui est de sacré de la reproduction, de la procréation.
Mmh, donner la vie.
Ouais, mmh. Je voulais qu'on termine sur l'huile essentielle d'encens. Alors, c'est vrai que l'encens a plusieurs réputations, finalement. Comment elle fonctionne, l'huile essentielle d'encens?
Sur le plan sacré, l'huile essentielle d'encens, c'est simple, c'est la page blanche. Moi, la manière dont j'aime la voir, je crois qu'il y a un tableau comme ça, comme ouvrir les fenêtres et être ébloui par le soleil, comme d'avoir cette lumière blanche qui nous éblouit. L'encens, c'est pour ça que c'est utilisé dans les églises, c'est utilisé dans plein de lieux sacrés.
Les mosquées.
Les mosquées. Oui. C'est utilisé aussi en méditation. Oui. C'est utilisé partout, l'encens. Il y a quelque chose de très purificateur, mais en même temps, il y a cette espèce de voile, de blanc complet, de silence, qui nous permet d'écrire des nouvelles pages, qui nous permet de passer à autre chose. Oui. L'encens est... mais c'est merveilleux. Voilà,
bien. Vous faites des formations en aromathérapie quantique et sacrée, Loïc?
Oui, c'est l'Institut d'aromathérapie énergétique, donc aromathérapie-énergétique.com. Chaque année, il y a un programme de 4 mois à l'automne et on voyage au travers de tous.
Alors, vous dites 4 mois, c'est en présentiel ou en...
Non, c'est en e-learning. C'est 4 mois en e-learning, donc il y a un module tous les 15 jours et le but, en fait, est de permettre aux personnes de découvrir tous les usages énergétiques des huiles essentielles, donc sacrées, alchimiques, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, mais aussi l'aromathérapie scientifique, parce qu'il faut savoir les utiliser, pour que chaque personne puisse à la fin faire son propre usage énergétique des huiles essentielles.
Bon, c'est passionnant. Karima, en attendant, vous allez lire, si vous vous intéressez justement à la fabrication des médicaments, le guide ultime de l'herboristerie.
Il est là.
Voilà, chez Albin Michel.
Super.
Karima, on se dit à mercredi.
À mercredi, avec beaucoup de plaisir.
Loïc Ternizien, on vous suit sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes très actif sur les réseaux. Hein.
Très réseau, je suis partout. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours très agréable de venir vous voir.
C'est avec beaucoup de plaisir. Vous réécoutez l'émission en podcast et vous verrez justement la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.